Vous êtes dans le Point de Max en ce lundi 9 mars. Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous, mais aussi bonne continuité à tous ceux qui écoutaient le matin. Aujourd'hui avec Yannick Marceau, Mathias Turcotte et Jeff Fortin. Oui, Mathias était là parce que Max est en congé. Je m'appelle Pascal et je le remplace pour toute la durée du Point de Max aujourd'hui. Sinon, on se retrouve ce midi avec Jeff Fortin également. Vous m'avez posé une petite question pendant la pause. Vous m'avez dit « C'est quoi la nouvelle qui t'a le plus surprise aujourd'hui? » Merci à l'auditeur qui le fait par texto. Je dois dire que j'ai hâte de parler de Gilles Vaillancourt. Qui? Gilles Vaillancourt, l'ex-maire de Laval, à qui on doit envoyer un chèque d'environ 1 million de dollars pour qu'il puisse payer ses impôts sur de l'argent volé. Rappelez-vous, cette saga-là, il y a quelques années, une certaine commission qui est associée aussi à M. Vaillancourt. Mais écoutez, je mets ça sur pause parce qu'on a bien des chats à fouetter aujourd'hui, mais on va en jaser tantôt avec nul autre que Victor Henriquez. Mais pour l'instant, très contente de l'accueillir ici dans l'émission Boulevard 101. C'est Valérie Beaudoin qui est au bout du fil, analyste de politique américaine. Salut Valérie!
Salut!
C'est une grosse journée encore. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on t'amène à parler avec nous, à collaborer à une émission, on dit « Valérie, c'est une grosse journée. » Ça fait combien d'années que c'est lourd ou que c'est grand ou que c'est gros puis qu'on a de la nouvelle comme ça?
Écoute, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas de nouvelles comme ça, mais je te dirais que particulièrement le début 2026, ma chère Pascal, est assez occupé, assez intense, donc c'est difficile même pour quelqu'un qui a le nez dedans tous les jours de même couvrir toutes les nouvelles qui sont sorties aujourd'hui.
Ouais, c'est sûr. Puis en fin de semaine, ça en a été une grosse au niveau de la politique américaine. Souvent, on va aller jaser pas mal plus en semaine quand on est dirigeant. On veut que ça fasse les nouvelles, on veut que ça fasse les manchettes. Mais dans la stratégie Trump, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. C'est, on en parle tout le temps, le plus possible. En fin de semaine, je voyais qu'à l'international, il y avait des gens qui s'étaient prononcés, notamment des richissimes, là, des très, très riches dans les pays du Golfe qui disaient « Ben voyons, pourquoi on se fait attaquer maintenant? » Entre autres parce que Donald Trump a une influence sur cette guerre en Iran. Il y en a qui étaient subjugués par ça. Puis, bon, bien sûr, l'Iran se défend en disant « Ben nous, on vise les institutions américaines, on vous déclare pas la guerre. » Mais ça reste que pour eux, c'est n'importe quoi de voir leur pays se faire détruire dans une guerre qui n'est pas la leur. Et c'est comme ça qu'il la décrivent. Il y en a même qui disaient, bon, Donald Trump se voulait président de paix, c'en est tout autre. Tout ce qu'il reprochait à Biden, finalement, il l'a dépassé dans quelques mois de son deuxième mandat. Mais Valérie, en fin de semaine, Donald Trump et Mark Carney se sont entretenus. Ils ont eu une conversation hier, se sont posé certaines questions sur leur façon de collaborer. Entre autres, ce qui en est ressorti, c'est que les deux ne veulent pas fermer le canal de communication. Encore là, j'ai pas l'impression que Carney soit le premier ministre du Canada, a le gros bout du bon ton là-dedans. Mais ils ont parlé d'économie, d'évolution de la situation au Moyen-Orient et des relations commerciales entre les deux pays. C'est pas mal la même chose dont ils discutent depuis maintenant plusieurs mois, non?
Oui, mais c'est le premier appel direct entre les deux depuis le mois d'octobre. Alors, on peut voir ça comme, comment dire, un pas dans la bonne direction. Mais on le sait très bien, avec Trump, ça peut être un pas dans la bonne direction. Puis après ça, 10 pas de reculons dans deux semaines. C'est sûr que c'est un contexte particulier parce que Mark Carney a fait partie des premiers leaders à appuyer l'effort américain en Iran. Bon, après ça, disons qu'il a vraiment nuancé ses propos. Peut-être qu'il est allé trop vite là-dedans. Mais c'est peut-être la poignée pour reparler à Donald Trump. Donc, ce qu'il dit finalement, c'est que les négociations reprennent, que oui, comme tu l'as dit, on veut garder un canal de communication qui est ouvert, mais plus loin que ça, il y a bien sûr toute cette question de ce qui se passe, le danger d'embrasement dans la région Moyen-Orient, avec ce qui se passe en Iran, avec les frappes dans les pays voisins, avec tous les pays européens qui essaient de se prononcer. Bref, Mark Carney en a profité pour suggérer justement qu'on débatte la question à Ottawa là, ce soir avec les groupes de l'opposition. Alors, est-ce que ça fait partie des promesses ou des choses qu'il a dit à Trump, au moins dans discuter pour voir quelle est un peu la position canadienne ou savoir quelle est la suite des choses? Mais ça fait partie quand même de leur discussion. C'est sûr que comme n'importe qui, j'aurais aimé être un petit oiseau pour savoir exactement ce qui s'est dit sur autant les négociations commerciales que la situation est très, très tendue.
Est-ce que au niveau du ton, Donald Trump s'est calmé envers le premier ministre du Canada? Est-ce qu'il est un peu moins bully qu'il l'était? Est-ce qu'il a décidé d'utiliser notre position au niveau du ton?
C'est difficile à dire parce que, comme je le disais un peu à la blague, là, ça dépend vraiment des semaines et tout ça, mais on sait que depuis qu'il y a eu Davos, là, depuis le fameux discours de Mark Carney qui avait été applaudi par tout le monde, ben après ça, il y a eu vraiment un moment où Donald Trump semblait être encore plus frustré face à Mark Carney. Au niveau des négociations, on l'appelait gouverneur Carney, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Alors, dernièrement, je te dirais qu'il y a eu pas un durcissement, mais un ton, un ton un peu plus baveux, hein, un peu plus frontal, moins dans, je veux dire, l'amitié, la collaboration, mais c'est des choses qui peuvent changer très, très rapidement. Et là, le fait quand même d'avoir un appel téléphonique comme ça dans les circonstances, quand c'était plutôt avant un mode « je l'ignore » ou « j'ai des commentaires négatifs », bien, il y a quand même ce changement-là qui, pour l'instant, on peut prendre comme quelque chose de positif.
Avant de parler de la conversation que Donald Trump a eue cette fois-ci avec Emmanuel Macron dans les dernières heures, courte conversation, mais quand même, ça met le ton sur comment est-ce qu'il va collaborer avec les pays européens. On a des textos qui entrent au 88-971-1021 et quelqu'un qui dit « Carney était supposé de régler le problème avec Trump. » Là, il l'appuie. Quelqu'un semble un peu confus dans tout ça.
Il l'appuie, la personne veut dire par rapport à
la guerre,
à l'Iran. Oui. Mais c'est sûr que Mark Carney, après ça, a fait certaines nuances, hein, parce que il a vu que les frappes, c'est de donner, comment dire, un appui inconditionnel à Donald Trump sans savoir quelle tournure allait prendre ce conflit-là, parce qu'il y a une différence entre des frappes chirurgicales en quelques heures, comme on avait vu là, avec l'opération là, qui visait les installations nucléaires, on se souvient, en juin dernier, et là, disons, un conflit où on connaît le début, mais on connaît pas encore la fin. On sait pas quand tout ça va arriver. Donc, il y a des gens qui ont dit, ben, c'est un peu imprudent de sa part. Il y en a qui ont dit, bon, au contraire, ça fait partie des négociations. Alors, il veut montrer, comment dire, pas patte blanche, là, mais qu'il est d'accord avec le président, ne pas être à dos. Mais moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait une espèce de, comment dire, une opposition dans son discours, le discours de Davos qui rejetait l'hégémonie américaine. Et là, d'un autre côté, bon, on l'appuie inconditionnellement au départ par rapport au conflit. Alors, je comprends le point de peut-être qu'il y a un discours un peu changeant là, par rapport au président Trump et à ses différentes actions. Je voudrais pas être à la place de n'importe quel premier ministre canadien ou d'un autre pays qui négocie avec le président Trump. Je vais être bien, bien honnête avec ça. Là. Disons que tu dois jongler avec ses humeurs et aussi ta propre politique interne au pays.
Une boîte à surprise, on dirait le clown que tu crains, puis à un moment donné, il sort, mais tu sais pas comment il va sortir de la boîte. C'est un peu ça. Et tu parlais bon, de n'importe quel autre dirigeant dans le monde qui a affaire à Donald Trump. Ça a été le cas d'Emmanuel Macron, président français. Emmanuel Macron, qui est assez vocal depuis le début dans tout ça, oui. Il semble être un porte-étendard, ou du moins de l'Europe en ce moment, ou du commun que fait certains pays européens face à la guerre avec l'Iran. Il sera à Chypre dans les prochaines heures, mais il a échangé avec Donald Trump. Il y a des petites choses qui en ressortent. Entre autres, pour lui, priorité aujourd'hui, c'est de travailler sur l'ouverture du détroit d'Ormuz, qui est un des détroits les plus importants au niveau commercial, au niveau mondial. Il veut le faire de façon sécuritaire. Il a un peu parlé d'armes nucléaires aussi, mais il a surtout pris position pour défendre ses comparses européens.
Mm-hmm. Oui, puis le détroit d'Ormuz, c'est très important d'en parler parce que c'est 20% ou même, j'ai vu des chiffres, entre 20, on va dire, et 30% du pétrole là, qui transige par ce petit détroit là, qui est vraiment collé sur l'Iran. C'est là qu'il y a des frappes, c'est là que c'est très imprudent, disons, de naviguer. Actuellement, là, les compagnies veulent même plus assurer les navires qui veulent y passer. C'est extrêmement dangereux. Alors, un peu comme les États-Unis qui ont proposé d'utiliser des navires de guerre pour escorter les pétroliers, tout ça, dans le détroit. C'est ce que j'ai l'impression que Macron veut faire aussi, hein, parce qu'il a dit qu'elle envoyait des navires, lui également, pour pouvoir sécuriser cet endroit-là, mais surtout escorter aussi les navires, parce qu'on le voit, là, je fais une petite parenthèse, le prix là, du baril de pétrole qui a augmenté, là, juste aux États-Unis, on a augmenté de 50 sous à le prix à la pompe, là, le gallon, là, c'est pas le litre, mais quand même, là, on approche pratiquement 4 $ le gallon, quand Donald Trump, il y a à peu près 2 semaines, même pas encore 2 semaines, disait dans son discours sur l'État de l'Union qu'on était sous la barre du 2 $ le gallon.
Ben, voici.
Alors, aux États-Unis, ça a un effet important, mais en Europe aussi, assurément, là, c'est pas juste là. Ici aussi au Canada, il va y avoir d'autres hausses à prévoir.
Ben, vois-tu, alors, Valérie, Macron, la semaine passée, à Québec, il y a des stations d'essence qui ont manqué d'essence parce que les gens ont été pris de panique. Ça s'est fait du côté de Beauport. J'en ai fait un dossier parce que je voyais sur les réseaux sociaux les gens commencer à s'affoler puis dire, ben voyons, je suis arrivée à une station d'essence et on sortait me dire, ben vous pouvez pas parce qu'on a plus d'essence. Et le prix du pétrole dans le baril a dépassé 115 à 120 $ en fin de semaine. C'est le niveau le plus élevé depuis 2022. Ce que tu dis, c'est important aussi, là.
Oui, exactement. Je pense que là, aujourd'hui, là, je regarde en même temps parce que j'avais ouvert un document là-dessus, mais je pense qu'il y a encore plus augmenté. Là. C'est ça, il 120. Là, il y en a qui disent est-ce qu'il va se rendre jusqu'à un 130, 100, 140, 150. Là, on est vraiment là, dans quelque chose d'assez, comment dire, incertain par rapport à tout ça pour le prix du baril de pétrole. Mais par rapport à Macron, si on revient un petit peu à sa position, c'est sûr que les États-Unis ont attaqué, pas de la même façon que l'Iran. Je parle par les mots ici. L'Espagne en disant, bon, on veut utiliser vos bases. Si vous voulez pas collaborer avec nous, on sait déjà que vous payez pas le juste prix pour l'OTAN et tout ça, ben on va vous imposer de nouveaux tarifs. Alors, on revoit, là, ça revient un peu à notre sujet de Carney tout à l'heure, à quel point on mélange tout, hein, tout ce qui est militaire, qui est aide, collaboration, tarifs. Il y a Emmanuel Macron qui est venu à la défense, justement, du gouvernement espagnol, de d'autres gouvernements aussi, qui a été quand même loin. Hein. Il a quand même risqué, comment dire, d'avoir des réactions de la part de Trump, parce qu'il a dit que là, on était vraiment avec les bombardements, là, qu'on était à l'extérieur de tout ce qui est droit international, hein, qu'on dépassait les règles du droit international, que de la façon que c'était fait, par exemple, les frappes d'Israël et des États-Unis, il ne pouvait pas les approuver comme elles étaient faites. Bien sûr, il y a eu ces frappes là, qui ont choqué, entre autres, on sait, hein, qui ont visé une école, selon les informations qu'on a, une école de jeunes filles en Iran. Là, il y aurait eu plus de 160 morts. Il y a une enquête qui est en cours. Dans beaucoup de, comment dire, de médias américains, on analyse tout ça et on pense que c'était une frappe américaine. Bref, c'est ce qui lui a amené à ce discours-là. Et bien sûr, de s'assurer qu'il n'y a pas une escalade au niveau du nucléaire et une escalade dans la région.
Ça répond partiellement à ma prochaine question que je voulais te poser, Valérie Beaudoin, parce qu'il semble diviser Donald Trump de plus en plus dans cet élan de guerre-là. Il y a une grande différence cette fois-ci entre ce qu'ont connu les États-Unis lors de la guerre du Golfe, de l'attaque de l'Irak au niveau coalition, au niveau appui international avec les alliés, versus aujourd'hui avec l'Iran. Qu'est-ce qui explique ça?
Bien, il y a des différences et des similitudes. Dans les différences, c'est certain que pour les deux guerres du Golfe, celle des années 90, celle du début des années 2000, celle de l'Afghanistan aussi, là, qui était post-11 septembre, on est, oui, avec une certaine coalition, surtout pour l'Afghanistan, hein, que je pense qu'il y avait beaucoup plus de pays qui appuyaient que l'invasion en Irak. On se souvient, là, du Canada et qui avait refusé, justement, au départ, la demande de Bush aux États-Unis. Donc, on n'est pas dans le même contexte. C'était une invasion terrestre aussi. Hein? Alors, ce n'était pas des frappes aériennes. La guerre est très différente à ce niveau. Mais au niveau des raisons, hein, du raisonnement, du ton qui est utilisé, il y en a qui font des parallèles entre les fameuses armes de destruction massive, cette menace imminente à l'Amérique, quand finalement, on le sait, des années plus tard, tout ça n'était pas fondé. Et de l'autre côté, utiliser la poignée de dire bien, il y a une menace nucléaire imminente. Hein? Ils sont tout près d'avoir la bombe nucléaire, en parlant de l'Iran aussi. Alors ça, c'est deux choses complètement différentes. Le contexte politique est aussi très différent. Il y a un contexte post-11 septembre, hein, attentat terroriste aux États-Unis, une population qui est traumatisée, qui appuie ce désir d'aller lutter à l'étranger de façon générale. Tandis qu'en ce moment, non seulement les Américains en majorité ou près de la majorité sont contre cette invasion, pas cette invasion, mais cette guerre en Iran, Donald Trump a une plateforme, No More Wars, plus de guerre. Là, je sais, on s'en est déjà parlé à plusieurs reprises. Moi, je suis allée dans des rassemblements de Trump. C'est les discussions qu'on voyait. Il y avait ça sur des posters, il y avait ça un peu partout. On ne dépensera plus de l'argent. Il n'y aura pas le sang des Américains qui va couler, en parlant bien sûr des militaires. On est vraiment ailleurs avec ce qui se passe. Et il y a un risque, justement, de rester plus longtemps que prévu dans la région. Et on le voit à quel point, là, à chaque jour, là, si vous ouvrez votre télévision, je sais que ça peut être déprimant pour certains, mais on voit qu'il y a des frappes, que ce soit Bahreïn, que ce soit, on a vu, bon, en Arabie Saoudite, on en a vu au Qatar, on en a vu un peu partout. Il y a aussi vraiment cet embrasement de la région qui fait peur à énormément de personnes.
Je terminerai avec toi, Valérie, sur un fait cocasse, mais qui est aussi très politique et qui est important, hein, dans la prestance, dans comment on s'habille, dans comment on se tient, le non-verbal. Mais Trump est critiqué pour avoir porté une casquette pendant l'arrivée des dépouilles américaines, donc de soldats décédés au combat et qui se voyaient ramener leur corps pour les familles. Ça fait un tollé aux États-Unis.
Oui, le corps des 6 soldats qui sont décédés. Là, on sait qu'il y en a eu un 7e. On l'a appris malheureusement ce week-end. Il y a un 7e soldat qui est décédé. Lui, c'était des frappes, en raison de frappes en Arabie Saoudite. Sa dépouille n'a pas encore été rapatriée. Mais pour ça, on le sait, en l'image, là, le drapeau américain sur les comment dire les cercueils, tout ça, quelque chose de très très solennel. Et je me souviens avant de parler de Trump, quand Biden avait été critiqué parce qu'elle regardait sa montre, hein, les images, les photos qu'on voyait, c'était ça. Et là, cette fois-ci, on a une situation, je vais dire un peu similaire, où le président a une casquette blanche, vraiment comme une casquette là, de style baseball, là, pas un truc d'armée ou rien, où il est écrit USA. Il ne la retire pas lorsque justement les cercueils arrivent. Là, il y a des gens qui disent oui, mais c'est le commandant en chef, et c'est comme si c'était un militaire, il faut qu'il garde justement le couvre-chef et tout ça. C'est qu'elle reste quand même un civil. Hein. J'ai regardé plein d'analyses de militaires américains qui disaient un peu la même chose. Et pourquoi on dit que ça devient un peu un fait cocasse et tout ça? Bon, là, on peut critiquer l'attitude de Trump, mais c'est que Fox News n'a pas présenté les bonnes images. Imagine-toi qu'ils ont présenté dans leur bulletin de nouvelles des images d'un autre, je veux dire, accueil, entre guillemets, ou cérémonie où des soldats américains décédés au combat arrivaient aussi à la base de Dover aux États-Unis.
Pour
et
protéger.
Là, c'est pas les bonnes.
Pour protéger Donald Trump de
ce est-ce que c'est pour le protéger ou pas? Parce que là, il n'y avait pas sa casquette. Hein. C'était vraiment plus, je vais dire, solennel, tout ça. Et finalement, ben, il y a un animateur de Fox News qui dit on s'excuse, on est vraiment désolé de cette erreur grossière d'avoir présenté les mauvaises images. Mais pour avoir travaillé dans une salle de nouvelles, et toi aussi, Pascal, il me semble que tu réalises lorsque tu mets quelque chose qui date, je ne sais pas, de 2017 ou de 2016 ou quelque chose de 2020
un choix conscient,
versus
absolument.
Quelque chose de 2026. Alors, à part si tu mets images d'archives, il y a quelque chose de très, très particulier. Il y a des gens qui disent qu'est-ce que Fox a voulu vraiment protéger le président américain. Si c'était le cas, je trouve pas ça très, on va dire, subtil hein, de leur part. Je pense que les images ont fait le tour du web déjà.
On peut être d'accord là-dessus, Valérie Beaudoin, analyste politique américaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Boulevard ce matin.
Merci, bonne journée.
Toujours intéressant de parler avec Valérie, hein, qui amène différents points de vue et surtout une analyse complète sur tout ça. Puis, oui, le choix d'image est souvent choisi. Il n'y a rien d'anodin là-dedans. Après, je me suis demandé, bon, est-ce qu'ils n'ont pas couvert ces obsèques-là? Puis il n'y avait rien en termes de support d'image à offrir pendant leur reportage. C'est une question qui peut se poser. Si je veux être 100% transparente, franche, honnête et faire mon travail avec vous, je peux poser la question en ondes. Mais encore là, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas couvert la chose la plus importante, je pense, actuellement, le rapatriement de dépouilles de soldats américains en leur territoire? Ça, j'y crois pas beaucoup, donc ils doivent en avoir des images. Écoutez, on pourra en parler longuement de Donald Trump dans chaque émission aussi à Boulevard 101 et encore dans chaque journée que constitue cette semaine-là parce qu'il fait la manchette chaque jour, c'est pas compliqué. Peut-être un petit clin d'œil au niveau des armes nucléaires du côté de l'Europe. Dans les dernières heures, on a parlé de la France là-dessus. Hein, la France qui avait adopté une position depuis la dernière guerre mondiale de pas arrière. On avait dit non, l'arme nucléaire, c'est agressif, on veut pas être là-dedans, on est dans un programme de désarmement et tout ça. Et finalement, bon, on s'est dit, bon, on va encore retravailler sur l'arme nucléaire. Ils sont prêts à produire de nouvelles têtes nucléaires parce qu'ils se disent, ben nos ennemis en ont, on peut pas se positionner comme étant plus faible. Quand on n'a pas d'armes nucléaires en 2026, c'est un problème. À l'émission Dans le point de Max, en congé de Max, qui est à Montréal, Éric Boulay, directeur de l'Aube-Rivière, s'en vient parce que l'ex-maire de Québec, Régis Labeaume, s'est prononcé sur la crise de l'itinérance. Lui avait calculé que ça allait être assez important dans les prochaines années. Nous sommes dans les prochaines années, quelques années après son dernier mandat. Quel en est le constat? Est-ce qu'il avait raison? Il s'est prononcé dans le soleil aujourd'hui et c'est Éric Boulay qui va prendre la parole là-dessus. Dans le point de Max, restez là.
Le point de Max.